Nous sommes en train de continuer notre étude sur le travail que Dieu fait dans nos vies pour nous changer puis pour nous amener comme Jésus. La parole de Dieu est bourrée d'enseignements. Pleine d'enseignements pour nous conduire dans la sainteté puis nous conduire à l'image de Jésus. C'est ça que ça nous dit dans le chant qu'on vient de chanter. On est transformé de gloire en gloire par l'Esprit pour arriver à être comme Jésus. Pour être transformé par l'Esprit, il faut que l'Esprit fasse un travail en nous. Ça veut dire qu'on était quelqu'un là, qui fonctionne d'une certaine manière. Puis une fois que tu es transformé, on fonctionne différemment. On est différent. On peut pas penser que quand on devient chrétien, qu'on va rester pareil. Parce que quand on est devenu chrétien, on regrettait notre vie et on voulait changer. En théorie, on était supposé. Si tu es repentant, ça veut dire que tu étais prêt à faire demi-tour. Tu voulais changer de vie. Tu voulais t'en sortir. Tu avais besoin de l'aide de Dieu pour t'en sortir. Puis, il est prêt à le faire. Dieu, c'est son plan. Il a décidé de choisir les plus pires dans le monde pour tirer sa gloire de cela. Vous sentiez-vous comme des plus pires avant de venir au Seigneur? Pas tout le temps. Des fois, on se pensait bien bon. On se pensait bien capable avant de venir au Seigneur. Mais quand on est arrivé, la journée qu'on s'est repenti, là, on réalisait nos péchés, puis comment est-ce qu'on était perdu, puis qu'on s'en allait dans l'étang de feu, puis on avait besoin d'un sauveur. C'est ça qui fait que on va vivre une réelle repentance, un réel changement, que l'Esprit Saint va rentrer dans notre vie pour nous changer. Est-ce qu'il y en a qui aspirent encore à changer? Je suis sûr que les femmes aspirent que les maris changent. Puis le contraire aussi. On aspire tous que les autres changent pour que ça soit plus facile. Mais veut pas, on a tous à changer. Puis pour changer, il faut qu'il y ait des prises de conscience qui soient prises. Autant quand j'ai accepté Jésus, il fallait que j'aie une prise de conscience de mon état de perdition. Que sans lui, là, je m'en vais en enfer, je m'en vais dans l'étang de feu pour l'éternité. Je suis perdu. Puis là, tu réalises que tu as besoin d'un sauveur. Il y avait une prise de conscience. Mais tous les autres points qu'on a changés tout le long de notre vie, là, mais ça prend des prises de conscience pour changer. Il faut réaliser notre état pour qu'on change. Une fois qu'on réalise notre état, c'est là qu'on peut en parler à Dieu, puis demander pardon, puis demander le secours de nous changer. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle. C'était justement ce qu'il voulait faire, qu'on change, puis qu'on arrive à devenir comme Jésus. Mais les points, des fois, on dit pas toujours, oui, on devrait dire amen, mais des fois, on va dire ouch, des choses qui doivent être changées. Parce que ça fait mal. Il y a des choses, des fois, on aime des choses, puis on s'en rend même pas compte, puis on est pris dans des choses qu'on aime, puis on a de la misère à lâcher. Dieu nous les demande, Dieu nous demande, il nous le montre, on a une prise de conscience, mais on a de la misère. Puis là, il faut laisser aller, il faut y remettre les choses qu'il nous demande. Il faut y dire, oui, Seigneur, prends tout, Seigneur, fais le changement que tu veux, puis c'est de même que tu vas grandir. Prendre conscience, puis d'y demander de l'aide. Puis là, le processus se fait. Si quelqu'un veut pas changer, il changera pas. Tout, c'est comme si Dieu, il force pas personne. Il nous a pas forcés. Y a-t-il quelqu'un qui s'est senti forcé d'accepter Jésus? C'était une proposition qu'il nous fait. Il nous appelle. Viens. Là, on répond à l'appel. Seigneur, oui, on coupe, on jette dans ses bras. C'est nous qui va à lui. Mais tout le reste, le changement, c'est la même affaire. Faut y demander. Il est déjà prêt, mais il force pas personne. Il met de la pression. Des fois, il serre la vis pour que c'est pour notre bien. Comme ça nous dit dans la parole, le Père châtie son Fils pour son bien. Une fois qu'on a subi la correction, qu'on a compris, merci Seigneur, ça a fait mal sur le coup, mais après ça, ta vie a changé. Ça, c'est comme un petit. Des fois, on a besoin d'une petite poussée pour changer. On veut-tu encore changer? On veut-tu voir dans la parole de Dieu les choses qui sont déjà révélées comme étant des choses qu'on doit changer? Parce qu'on peut être un peuple qui regarde, mais qui veut pas voir, puis qui veut pas entendre, de peur qu'il nous guérisse, puis qu'on change. C'est comme le peuple d'Israël, il t'a rendu de même, puis les prophètes l'ont dit, il voulait plus changer. Mais nous, il faut toujours avoir un cœur sensible à dire, « Oui, Seigneur, tu m'as parlé, puis je vais avancer. » Le point qu'on va regarder aujourd'hui, on va parler d'un état de cœur que Dieu veut changer. Comme j'ai dit les études antérieures, on est en train d'étudier sur les états de cœur qui sont démontrés dans la Bible. La Bible parle d'états de cœur, puis je suis sûr et certain que si c'est là, c'est parce que Dieu voulait qu'on prenne conscience de ces sujets-là. Puis, pour nous changer, pour qu'on évite ce qui pourrait être écrit autour, des fois il y a des corrections, des fois il y a des punitions pour des états. La question qu'on devrait se poser, quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Moi, je sais que mon cœur était bien disposé à la repentance quand j'ai accepté Jésus. Il y a 37 ans, là, 38 ans cette année, là, au mois de novembre, j'étais bien disposé d'accepter le Seigneur quand je l'ai accepté. Est-ce que je suis encore aujourd'hui disposé de vouloir changer? C'est ça qu'il faut se poser comme question, parce qu'on l'a vu la semaine passée, nous sommes les gardiens de notre cœur. Tout changement va dépendre de notre état de cœur. On veut-tu changer? On devrait toujours se poser la question. Tous les jours, je suis encore en bonne disposition pour écouter la voix de Dieu. Être prêt à dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Si on est dans cet état-là, on est dans l'état de recevoir. Mais si on est là, oh non, moi je me cache, je veux vivre mes affaires de péché, puis on veut pas lâcher rien, là c'est sûr qu'on n'est pas dans une disposition pour recevoir. Un chrétien devrait être toujours à l'écoute de ce qui se passe dans son cœur. Parce que notre cœur, il change. Notre état de cœur change. Nos dispositions de cœur, notre volonté change. Depuis qu'on est chrétien, là, depuis que si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, il y a des journées que vous ne filiez pas pantoute à vouloir changer quoi que ce soit. Puis peut-être que vous aimiez tellement des choses qui déplaisaient à Dieu, puis vous n'en rendiez pas compte, puis vous avez pataugé dans des péchés qui déplaisaient à Dieu, attristé le Saint-Esprit, puis ça dure longtemps. Des fois, il y a des choses qui se répètent, puis ça se répète plusieurs fois, puis on passe pas à travers pour avoir la victoire. Puis il y a d'autres fois, on est tout oui, puis oui, Seigneur, puis remplis-nous de ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés, change nos vies. Faut toujours vérifier si notre cœur il est encore bouillant pour le travail de Dieu, être à l'écoute de Dieu. Pour Dieu, lui, il change pas. Il est éternellement le même. Sa parole, elle change pas. Mais nous, le fait de changer peut faire qu'on porte du fruit ou on n'en porte pas. Dieu nous a laissé à tous la liberté de choisir quel chemin nous voulons choisir. Tout le monde a ce choix-là. Dieu y appelle, mais les gens sont libres. Dans Jérémie 21:8, Dieu dit à Jérémie, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie puis le chemin de la mort. » Ça veut dire que le peuple d'Israël avait le choix. Le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Tu as le choix. Soit que tu décides de suivre puis d'accepter ce que Dieu dit puis d'avancer là-dedans pour la vie ou de résister puis de refuser puis de rejeter puis de tasser ce qu'il te dit pour persister dans la rébellion qui est le chemin de la mort. Tout le monde sur la terre a ce choix-là devant ses yeux tous les jours. Même après un disciple de Jésus qui a fait 35 ans qu'il est chrétien, peut décider d'abandonner le Seigneur. Il y en a qui ont abandonné de ceux qu'on connaît. puis qui ont goûté, ils ont pris part aux dons célestes, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont connu les promesses, ils ont, comme ça nous dit dans Hébreux, mais ils sont tombés. Il y en a comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps qu'il était rempli puis le temps qu'il l'était plus, puis que là, au point qu'il lâche le Seigneur? Il a pris des mauvaises décisions. Il avait le chemin devant lui, le chemin de Dieu, puis c'est sûr que le Saint-Esprit l'attira, mais il y a un endurcissement qui est possible, puis ils choisissent le mauvais chemin. Le constat de Jésus sur cette situation-là, là, fait très peur, dans le verset qu'on va lire, là, parce que Jésus dit, il y en a peu qui prennent le chemin de la vie. On voit ça dans Matthieu 7, 14. Il y en a peu qui prennent le chemin de la vie. Il dit, le chemin de la vie est devant toi, puis le chemin de la mort. Puis Jésus a dit, il y en a peu qui prennent le chemin de la vie. Il nous dit ça dans la parabole de la porte étroite, puis le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais le verset 14, il dit, étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Très peu de personnes choisissent le chemin qui mène à la vie. Pourtant, Dieu l'a mis à tout le monde, ce chemin-là. La Bible est distribuée à travers le monde. C'est le livre qui a été le plus traduit. Puis en plus, sur Internet, tout est là, dans plein de sites, il y a plein de Bibles. On pourrait connaître la parole de Dieu, mais le monde, on dirait que beaucoup de gens, c'est pas moi qui l'invente, ça, c'est Jésus qui le dit, il y en a peu qui les trouvent. Il fallait que tu trouves la porte, puis il fallait que tu trouves le chemin resserré. Le chemin resserré, c'est sa parole. Tout est expliqué, c'est quoi faire pour marcher en étroite relation avec le Seigneur. Quand on parle du mot resserré là-dedans, là, ça parle du mot resserré dans le grec, là. C'est resserré, pressé, être affligé, exposé à des tribulations, malheureux, persécuté. C'est tous des mots qu'on aurait pu mettre pour remplacer resserré. Le chemin de Jésus qui mène à la vie n'est pas facile. Il est dur, c'est des combats, des luttes, des problèmes, des difficultés. Un chemin même de malheur, de Jésus, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Son chemin, prendre sa croix, c'était un chemin de souffrance, puis il demande à nous de prendre notre croix. Puis il nous demande d'avancer dans ce chemin-là qui n'est pas facile. Dans les explications du dictionnaire biblique, il dit « pressé comme des grappes ». C'est ça qui sera le sens du mot resserré. Un chemin resserré qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent, mais c'est un chemin qui te presse comme une grappe de raisin que t'écrases pour sortir le jus. Oppressé, un chemin rétréci, un chemin étroit, contracté. Puis la métaphore de ça, c'est affligé, troublé, persécuté, tourmenté, accablé. C'est tous des synonymes du mot du chemin qui mène à la vie. C'est pas un chemin facile. Puis il ne peut qu'y rentre dedans. Puis, gloire à Dieu, on a accepté ce chemin-là, puis on veut marcher dedans. Merci Seigneur. En choisissant le mal, il y avait plein de gens là qui étaient autour de Jésus dans cette période-là. Puis Jésus est en train de le dire, mais il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Il est en train de dire à tout le monde, vous êtes tous sur le mauvais chemin. C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus, t'as pas gêné. Mais le fait de dire la vérité, c'était pas facile pour Jésus. Il est en continuel combat avec les gens, des combats de doctrine, des combats que le monde refusait ce que Jésus disait. Alors, Jésus, là, il faisait du bien dans son chemin, là. Yeshua, là, faisait des miracles d'un bord puis de l'autre. Tout le long faisait du bien, puis guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Puis les gens le critiquaient, ils s'opposaient, puis ils l'insultaient. Même dans ce temps-là, pour le monde, là, le bien que Jésus faisait, il disait que c'était mal. Puis eux autres, le bien qu'eux autres voulaient faire, c'était du mal. C'était pas correct devant Dieu. Jésus lui disait que, ben, il les traitait d'hypocrites, il les traitait de toutes sortes d'affaires, parce que les gens pensent pour être des gens bien religieux, mais le monde font tout le contraire de ce que Dieu dit. Dans le contexte de quand il a dit ça, là, dans Matthieu 12, 32 à 34, Jésus, il venait de chasser un démon, puis les gens, ils ont dit, c'est par le prince des démons qu'il chasse un démon. Il ne voit pas le bien, il voit le mal. C'est par Satan, le prince des démons, qui chasse les démons. Jésus dit, quiconque parlera mal contre le Fils de l'homme, ça va lui être pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. Là, vous êtes en train de dire que l'Esprit qui est en Jésus, c'est à le diable. C'est un insulte, un outrage, pas juste à Jésus, au Saint-Esprit lui-même. Si tu insultes Jésus, Jésus est prêt à te pardonner, mais si tu insultes le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon possible. Tu es coupable d'un péché éternel. Puis eux autres, ils venaient de le faire. Là, Jésus, il essaye de lui expliquer, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Mais regardez l'œuvre que j'ai faite, c'est une bonne œuvre que j'ai faite. Allez pas dire que je suis mauvais, c'est une bonne œuvre. Il essayait de lui faire comprendre. Car on connaît l'arbre par les fruits. Puis là, Jésus lui dit, race de vipères. Il traite le monde de race de vipères. Des vipères, c'est des serpents. Fait qu'il est en train de lui dire, race de serpents. Puis il représente qui, serpent? Fils du diable, des gens du diable, des envoyés du diable. Il dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Les gens, ils n'étaient pas capables de dire que Jésus, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méchants dans leur cœur. Le problème, ce que Jésus essaie d'expliquer, le problème que les gens sont pas capables de faire le bien, c'est parce que leur cœur est rempli de méchanceté. Là, il dit, Jésus qui le dit dans la même phrase, il dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que si les gens disaient que le diable était dans Jésus, que l'esprit qui est en Jésus, c'est le diable, si le monde dit ça, c'est parce qu'ils sont remplis de méchanceté dans leur cœur. Il est là le problème. Puis c'est ça qu'on est en train d'étudier, l'état du cœur. Puis là, Jésus les a traités de méchants. Le sujet qu'on regarde aujourd'hui, c'est les cœurs méchants. On va voir que Dieu en a parlé dans plusieurs passages de la méchanceté qui est dans les cœurs. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux et méchant. Dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le mot tortueux, là, c'est comme raboteux. C'est ça que ça veut dire dans l'hébreu. C'est comme un couteau. T'as un chemin, t'as un champ que tu es en train de semer qui est bien droit, puis à un moment donné, il y a une pente, là. Ça, c'est un couteau. Il dit le cœur de l'homme, là, il est comme un couteau où ça descend en pente raide. Tortueux, ça veut dire raboteux, ou qu'il est comme avec des traces, comme si tu aurais passé avec un tracteur, puis qu'il y a des trous, il y a des traces de roues dans le champ. Mais il dit que le cœur de l'homme, il est comme ça. Puis ça veut dire qu'il est trompeur, il est sournois, il est insidieux, il est glissant, il est raide, accidenté ou montagneux. C'est que le cœur, il est méchant, il est raboteux, il est croche, il est creusé avec... C'est pas de la belle terre. Puis ça, c'est un constat que la Bible... C'est la Bible qui nous dit ça. Le cœur, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Puis si on l'avoue, avant de venir à Jésus, on était tous comme cela. On a tous fait des méchancetés. Il n'y a personne qui pourra dire, moi, je suis une très bonne personne. On a tous fait des affaires. C'est juste, il faut être honnête pour l'avouer. Qui peut connaître le cœur, comme ça dit dans ce verset-là? L'homme, lui, il s'en aperçoit pas par lui-même. Souvent, les gens, ils se pensent juste, ils se pensent correct. Ils viennent de frauder le gouvernement et sur le rapport d'impôt. Ils viennent de dire des affaires qui étaient faux. Ils viennent d'insulter du monde. Pas grave, moi, je suis un bon gars. Les gens sont pas capables de voir par eux-mêmes ce qui est bien. Oui, la conscience nous le dit que telle affaire est pas bien. Des fois, on se sent mal. Pour ceux qui ont une conscience bien sensible, ils vont se sentir mal après avoir fait de quoi, mais on fait des méchancetés. Qui connaît vraiment les cœurs? Il y a juste Dieu lui-même qui pèse les cœurs puis qui peut nous dire la vérité sur notre état. Dans Proverbe 24, le verset 12, ça nous démontre c'est qui pèse les cœurs puis qui les comprend. Il dit, si tu dis, oh, nous savions pas, mais celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ça, dans ce verset-là, c'est en train de nous dire, Dieu sait tout ce qu'on pense. Depuis qu'on est au monde, on ne peut pas rien cacher. Il écoute les cœurs de tout le monde sur la planète. Depuis Adam et Ève, il connaît les cœurs même des animaux, puis il est capable de parler au cœur des animaux puis des oiseaux. Il l'a déjà fait, on l'a vu dans la parole. Mais l'homme, des fois, il se pense tout seul, puis il médite du mal, puis il pense que c'est pas grave. Ou qu'on va être devant TV en écoutant de la porno, pas grave, personne ne m'a voué. Dieu voit tout. On peut pas y cacher rien. C'est le seul qui pèse les cœurs, ça dit dans ce verset-là. Peser, là, ça veut dire qu'il va faire une évaluation. Dieu va faire une évaluation de tous les cœurs des gens, de tous les humains qui ont vécu sur cette planète. Dieu va faire une évaluation, puis il va rendre à chacun selon ses œuvres. Personne ne va pouvoir dire, « Oh, je ne le savais pas. » C'est ça que ça dit au début. « Oh, on ne le savait pas. » Dieu, il est conscient de tout ce qui se passe dans nos cœurs. Un exemple de ça, comment Dieu juge les cœurs, puis comment Dieu a jugé les cœurs dans l'Ancien Testament, on a un exemple dans Daniel, au chapitre 5, le verset 25 à 28. Il y avait le fils de Nebuchadnezzar, il s'appelait Belshazzar. Lui, il avait à sa disposition, parce que ça avait été déporté du temple, toutes les coupes, tous les ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu s'étaient rendus à Babylone. Ça avait été emmené quand les Juifs ont été emmenés en captivité à Babylone. Tous les ustensiles en or, en airain, puis en bronze, puis je pense, il y en avait en argent. Tout était ramassé, serré. Il avait mis ça dans le temple de leur faux Dieu. Puis lui, il a fait un party, puis il a invité tout le monde. Puis il s'est servi des coupes de Dieu pour s'enivrer dans le party avec les autres. Il voulait comme montrer, « Moi, j'en ai bien mieux que le Dieu d'Israël n'a pas pu les délivrer. » Puis on prend un coup avec les ustensiles qui étaient consacrés à Dieu. Lui, il savait pas, mais il y a quelqu'un qui le voyait faire. Qui? Dieu. Dieu le voyait faire. Puis Dieu est en train d'évaluer son cœur, il est en train de peser son cœur pour évaluer ce qu'il est en train de faire, puis lui dire que c'était pas correct. Puis comment est-ce que c'est arrivé? C'est qu'il y a une main qui a apparu pendant le party, puis il a écrit quelque chose sur le mur. Ils ont tous comme eu le visage allongé, puis les reins les ont relâchés. Ça veut dire qu'ils ont fait leurs besoins dans leurs culottes. C'est quelque chose, là. Si ça nous arriverait, nous autres aussi, mais on veut pas que ça arrive, là. On veut marcher. C'est bon. Là, ça nous dit, Daniel a donné l'explication des mots qui étaient écrits, parce que le roi, là, il a dit, si quelqu'un est capable de lire ces écritures-là qui étaient écrites sur le mur, il dit, je vais le couvrir de richesses. Daniel, il a dit, garde tes richesses, mais moi, on va te le dire. Il a demandé à Dieu, puis Dieu, il a dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, puis il a mis fin. Tu as été pesé, il dit, tu as été pesé dans la balance, puis tu as été trouvé léger. Mais il dit, divisé, ton royaume sera divisé, puis donné aux Mèdes et aux Perses. Puis ça nous dit que là, il a couvert d'or Daniel, puis ça nous dit qu'il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner direct là. Je pense que c'est la même journée. Mais le point qu'on veut en venir dans ça, comment est-ce que je disais, celui qui sonde les cœurs, qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Puis lui, il dit que ce gars-là, il a été pesé. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a trouvé ça, c'est léger, tu vas tout perdre à cause que tu as agi légèrement. Mais l'idée, c'est que Dieu voit tout, sait tout, entend tout, on ne peut pas y cacher rien, puis c'est lui qui nous regarde aller, puis c'est lui qui nous pèse à tous les jours. Amen. Puis un jour, à la fin, bien, on va avoir à rendre compte de chaque parole. C'est ça que ça nous dit, même pour les chrétiens. Jésus a dit à ses disciples, « Tout ce que vous aurez dit dans les chambres va être prêché sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. » Fait qu'il ne faut pas penser qu'il se passe des affaires que personne ne sait. Un jour, tout le monde va tout savoir.
Amen.
Ouch! C'est plus ouch. Mais cela, cette évaluation-là, ce que je veux en venir, parce que là, on est en train d'étudier le changement des cœurs. On pense que notre cœur, c'est pas important, qu'est-ce qui se passe là. Mais Dieu, il évalue les cœurs, puis il évalue les cœurs de ses disciples, il évalue le cœur de ses enfants. Puis, là, on parle du sujet du cœur méchant, que ce gars-là, lui, Nébuchadnezzar, il a été évalué, puis Dieu l'a pesé, puis Dieu l'a jugé. Ça arrive-tu juste aux gens dans le monde, ces choses-là? Non. Ça arrive aussi aux chrétiens. Comment un chrétien peut-il être diagnostiqué par le Seigneur Jésus puis que le diagnostic soit « t'as un cœur méchant ». Que Dieu parle à un chrétien puis « t'as un cœur méchant ». Ça se peut-tu que, y a-tu des exemples dans la Bible que Dieu, Jésus, parle à un de ses disciples et dit « t'as un cœur méchant ». Pourquoi vous pensez que Dieu pourrait dire cela si ça serait écrit? On va en voir un ou deux exemples, mais pourquoi pensez-vous que Dieu donne ça dans la Bible, qu'il parle à un de ses serviteurs et qu'il le traite de méchant? C'est parce qu'il veut pas qu'on soit pris dans cet état-là, mais qu'on arrive au bout. Il veut nous avertir que c'est une possibilité qu'on soit jugé méchant par le Seigneur. Puis c'est important qu'on regarde notre vie, qu'on sonde notre cœur. Je suis un méchant, moi, devant Dieu? J'agis-tu en méchant? On va aller voir une petite histoire dans Matthieu, chapitre 18, les versets 23, à partir du verset 23. C'est une parabole que Jésus dit, mais il y a de quoi là à prendre comme information qui va nous... Je pense que Dieu veut nous parler dans tout cela. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Tu sais, je vous disais tantôt, ses serviteurs au roi vont avoir à rendre compte. Un jour, on va avoir à rendre compte, chacun de nous, individuellement, on va passer devant le Seigneur pour être évalué. Quand il se met à compter, mais ça, c'est là, il parle de l'histoire de ce gars-là. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait fait, et que la dette fût acquittée. Le gars était acquitté, là. Mais il fallait qu'il soit vendu, lui et sa femme. Là, tout, c'était vraiment toute une grave punition là, qui était sur lui. Là. Le serviteur se jeta en terre. Il se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, puis je te payerai tout. » Le gars, il était sincère, là, même s'il n'avait pas la capacité réellement de payer. Il voulait pas être livré. Puis ça a été jeté en prison. Puis lui puis sa famille, il dit, « Seigneur, je vais tout payer! » Puis il pleurait tout bien à ses pieds. Là, le maître, quand il l'a vu, ça l'a touché de voir le gars qui s'humilie. Il sait qu'il n'a pas les moyens de payer, mais il a accordé la grâce d'être pardonné, que sa dette lui soit remise. Ému de compassion, ça nous dit, le maître de ce serviteur le laissa aller, puis lui remit sa dette. C'est un peu comme nous, comme quand on était à Jésus pour demander pardon pour nos péchés. On n'était pas capable de payer notre dette. Mais on a supplié le Seigneur de nous pardonner, puis on a cru que le sang de Jésus était pour nous purifier. On était graciés de toute notre dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra des compagnons qui lui devaient, un compagnon qui devait 100 deniers. C'était rien comparé à la dette que lui venait de se faire remettre, c'était juste 100 deniers. Il le saisit, puis il l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois! » Son compagnon, il dit, se jetant par terre, le suppliait en disant, « Impatience envers moi, puis je te paierai! » Mais l'autre ne voulut pas, puis il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était arrivé, furent profondément attristés, puis allèrent raconter au maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fait appeler ce serviteur, puis lui dit, « Méchant serviteur. » C'est un gars-là, là, il avait été grossier, il avait reçu la grâce de pouvoir à payer sa dette. Le maître était ému, t'a touché, là, il était content même de le laisser libre, parce que le gars, il avait supplié, mais là, il le traite de méchant. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Puis son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Puis là, l'autre phrase qui est après, c'est ça qui nous fait, faut comprendre ce que Dieu nous dit, là. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voyez-vous ce qui est arrivé dans cette histoire-là? La personne avait été grossier, avait reçu la grâce de plus de dette. T'étais libéré, t'étais libre, la joie dans le cœur, puis on... Mais qu'est-ce que le maître, en fin de compte, s'attendait de ce serviteur-là, c'est qu'il fasse la même chose aux autres. Si un autre arrive et il doit de l'argent, bien, il faut que tu sois capable de pardonner aux autres aussi. Il y avait été une dette incroyable, il avait été remis, puis l'autre, il devint des pinottes. Il était prêt à tuer l'autre, à l'étrangler, puis à l'envoyer en prison. Il a agi avec méchanceté, il n'a pas agi avec un cœur de grâce comme qu'il avait reçu la grâce lui aussi. Il devait se dire, personne ne le sait, qu'est-ce que je suis en train de faire, puis je vais avoir ce qui m'appartient. Puis il était cruel, il était surtout méchant. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, que dans la nature humaine, le cœur de l'homme, c'est la méchanceté. Mais le maître s'attend à ce qu'on soit dans la grâce, dans le pardon de tout notre cœur. Puis il nous dit, Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voyez-vous les attentes de Dieu dans cela? Nous, on était grossiers de tous nos péchés. C'est une dette qu'on n'aurait jamais pu payer. Mais Dieu s'attend à ce qu'on pardonne à tout le monde. Puis c'est ça qui est être bon dans la vie. Si tu fais pas ça, tu vas être appelé un méchant par Dieu. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que Dieu prend des personnes méchantes, nous, mais des gens qui veulent être transformés, nous. Amen. Y a-tu du monde ici qui est méchant, mais qui veulent être transformés? C'est nous. Dieu a choisi des personnes qui avaient des grosses dettes envers Dieu pour démontrer sa bonté. Il nous a remis notre dette. Puis là, il nous transforme pour qu'on devienne de bonnes personnes, pour qu'on soit même utilisé par Dieu pour faire du bien aux autres. C'est ça qui est le but de Dieu. Fait qu'il prend des personnes méchantes, des gens qui veulent être transformés, puis les utilise à devenir des fidèles et prudents serviteurs. C'est le but à atteindre. Alors regardez dans Matthieu 24, à partir du verset 45. Jésus dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? » Il a pris quelqu'un, il n'avait pas des fidèles et prudents avant que tu acceptes Jésus. Il a tout pris du monde méchant, tortueux, du monde qui servait, qui connaissait pas Dieu puis qui désobéissait à Dieu. Et il nous a pris, puis il veut nous amener à être fidèles et prudents. On va le voir après ce que ça veut dire, mais il veut nous amener à une stature qu'on n'aura jamais atteint par nous-mêmes, pour qu'on soit tellement fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire que, en plus, Dieu va nous donner la responsabilité de s'occuper de ses frères et sœurs, de bénir ses frères et sœurs, de faire du bien à ses frères et sœurs, de s'en occuper, leur donner la nourriture au temps convenable. Fait que Dieu établit, c'est Dieu qui établit sur ses gens. C'est un appel de Dieu que Dieu, c'est pas pour rien que Dieu nous a placés où ce que nous sommes, puis qu'il y ait des frères et sœurs dans le besoin autour de nous. C'est parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, pour qu'on s'en occupe, pour qu'on déverse des bontés qu'on a reçues, d'être gracié, d'être transformé, puis qu'on puisse le déverser ses autres pour accorder la même grâce et les mêmes bontés sur les autres qui sont autour de nous. Dieu veut nous utiliser, chacun de nous, là. Il dit, là, il rajoute, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. » Voulez-vous être établi sur tous les biens de Dieu, l'autre bord? Mais dans votre vie ici, choisissez le chemin de déverser, donner, aider, prendre soin. C'est ça, il nous a placés là pour qu'on s'occupe des autres frères et sœurs. C'est son plan à Dieu. Puis quand on est rendu là, on est appelé par Dieu un fidèle. Fidèle, là, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est sûr, on peut se fier sur lui. C'est des personnes qui se montrent fidèles dans leurs transactions d'affaires, tu sais, qui marchent droit, là, qui sont justes, puis ils donnent les bonnes choses, tu sais, dans l'exécution des ordres, puis accomplissent les devoirs officiels. Ou ça veut dire celui qui garde sa foi engagée, puis est digne de confiance. Dieu s'attend à ce qu'on devienne tout comme ça. On était tous des méchants, mais il veut qu'on devienne tous des fidèles qui s'occupent des autres. Puis il veut nous le dire, nous appeler bons et fidèles serviteurs. Il dit dans un autre verset. Prudent, il dit parce que là, il les appelle fidèles et prudents. Les prudents, c'est ceux qui sont sages, qui sont intelligents, pleins de bon sens, sont sensés, sont attentifs aux intérêts. Mais là, vu qu'on sert le maître, on est attentif aux intérêts du maître, on est avisé, on fait notre tâche avec du sérieux, c'est ça. Dieu cherche des gens qui savent où ils s'en vont, puis qui font le service de Dieu avec une loyauté, puis une fidélité, puis être juste, etc. Puis il dit, heureux ce serviteur qui le maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. On peut pas y arriver par nous-mêmes là dans cet état-là, mais on vit cela, pis on veut que Dieu nous appelle serviteurs fidèles et prudents. Ça ne vous fera pas un petit quelque chose de vous le faire dire? Jésus nous regarde aller, il sonde notre cœur, puis il nous voue nos œuvres qu'on fait, puis il nous appelle serviteurs fidèles et prudents. Puis il veut nous amener là. Puis ça le dit que c'est le maître qui les a établis sur ces gens. Ça veut dire que c'est le maître qui a le travail de nous changer, nous transformer, pour nous amener à être comme cela. Mais il faut qu'on soit volontaire, comme j'ai dit tout à l'heure, de choisir, d'accepter que le travail se fasse. Parce qu'on peut choisir le chemin de la résistance, puis de la rébellion, puis s'éloigner, puis Dieu voit tout, puis des fois, il ne peut pas rien faire avec nous autres. Il faut toujours prendre garde de conserver un cœur selon Dieu. Même de conserver notre cœur bon pour Dieu. Être des bonnes personnes qui servent Dieu fidèlement pour Dieu. Dans Matthieu 24, 48, dans le même verset qu'on vient de lire, mais l'autre verset qui arrive juste en dessous, puis ça, là, ce verset-là, c'est « faut jamais se retrouver dans cet état-là ». Comme je disais tantôt, le maître a établi certains, puis ils sont appelés des fidèles, puis il y en a d'autres, on va voir. Jésus qui parle, il dit « mais si c'est un méchant serviteur. » Là, on voit encore l'idée, quand je disais tantôt, que le cœur, il est méchant. Mais il y a des personnes qui vont se faire appeler méchants par Jésus. Si c'est un méchant serviteur, puis il dit en lui-même, mon maître tarde à venir, puis il se met à battre ses compagnons. Au lieu de les aider, il se met à les battre, les dominer, les écraser, en profiter, les abuser. Parce qu'il y en a des pasteurs qui abusent de leur église, puis ils les siphonnent financièrement, puis tout le kit, avec des menaces, puis des condamnations, ou n'importe quelle fausseté qui peut dire, parce qu'ils ont le cœur tortueux eux-mêmes, puis qu'ils veulent vivre du lait des brebis. T'sais. Il y a des méchants serviteurs déclarés par Jésus. Il dit, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître, il tarde à venir, puis il se met à battre ses compagnons, puis il mange et boit avec les ivrognes, ça veut dire c'est le gars de party, puis de la débauche, puis elle veut s'en v'là. Mais il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où s'il s'en attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas, puis il le mettra en pièce, puis il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs puis des grincements de dents. Voyez-vous, là, tu as les deux scénarios d'un gens qui ont été placés par Dieu. Tu as ceux qui sont fidèles et prudents, puis tu as ceux qui tournent puis deviennent méchants dans leur rôle. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils deviennent méchants, puis ils avaient été placés par Dieu, mais dans leur rôle, ils ont pris des mauvais choix, ils ont été attirés par des convoitises, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans tous les cœurs, mais il est devenu méchant. Puis c'est un gars qui est mal parté, puis la débauche, puis il battait les serviteurs au lieu d'en prendre soin. Mais il va être jeté dehors, puis il ne rentrera pas dans la vie éternelle. C'est ça que ça dit dans ce passage-là. Oui, on est sauvé par la foi pour rentrer dans le chemin. Mais le chemin resserré, puis t'as le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Voyez-vous, il y en a juste deux. Le chemin resserré, c'est un chemin de fidèles prudents, de ceux qui marchent par la foi, puis ça va mal, c'est dur, mais ils persévèrent, puis ils sanctifient. C'est le chemin de Jésus. Jésus, il dévoile le secret pour garder un bon cœur, pour rester dans ceux qui sont sur le bon bord. Dans Luc 6, 45. Jésus dit, « L'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Puis le méchant, c'est là encore le bon puis le méchant, « tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez-vous, là, les deux personnes qui étaient là, des serviteurs du Seigneur au-dessus de l'Église, il s'est passé de quoi dans les cœurs des gens? Il s'est passé de quoi dans le cœur d'une personne pour qu'il reste fidèle et prudent, puis il s'est passé de quoi dans le cœur de l'autre pour qu'il devienne méchant. C'est ça que Jésus dit. Le bon, il va tirer de bonnes choses de son bon trésor, puis l'autre, il va tirer de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est quoi le trésor qu'on a dans notre cœur? C'est un bon trésor ou un mauvais trésor? Le bon trésor, c'est la parole de Dieu, être heureux d'être sauvé, de croire en Jésus, de savoir qu'on a la vie éternelle, que notre nom est inscrit dans le livre de vie, on a toutes les promesses de Dieu. Fait que si tu restes dans ton bon trésor, dans tes pensées qui sont la véritable trésor, tu vas être heureux d'être chrétien, puis tu vas vouloir servir le Seigneur de tout ton cœur. Celui qui tourne mal puis qui devient méchant, c'est parce que dans son cœur, il n'est plus dans un bon trésor. Il est rendu dans un mauvais trésor. Son trésor, c'est peut-être de convoiter, d'avoir plus d'argent, se vouloir se livrer dans les passions de ce monde, les péchés, les désobéissances, vouloir profiter, peut-être qu'il veut de la gloire, peut-être qu'il veut du prestige, peut-être qu'il veut l'argent. Le mauvais trésor va entraîner les gens dans les mauvaises voies, puis qu'ils vont finir à l'envers, puis ils débarquent du chemin, puis ils vont se faire rejeter. Tout, ça dépend tout comment est-ce qu'on trouve notre vie chrétienne. Est-ce qu'on trouve que c'est super bénissant, qu'on est heureux de connaître Dieu, qu'on aime le Seigneur, on croit en sa parole, on veut marcher d'une manière qui lui plaît, on veut qu'il vienne faire l'œuvre. Pour nous autres, là, c'est-tu notre trésor? C'est-tu qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde? Si oui, on va se maintenir les pensées là-dedans, on va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, puis on en veut plus. Puis notre vie va être changée, il va nous dire quelque chose, on va dire, oui Seigneur, prends tout, je te la donne, puis je vais avancer. Tant que tu vas rester dans le bon trésor, qui est Dieu et sa parole, tu vas marcher dans ce qui est juste. Puis il faut que tu rejettes aussi ce qui n'est pas bon. Mais si tu poursuis des mauvaises voies, des mauvaises pensées, laisse rentrer des affaires que tu ne devrais pas dans tes yeux, dans tes oreilles, c'est sûr que tu vas te faire appeler méchant. Voyez-vous? Un jour, je finis avec ce dernier verset-là, Dieu va récompenser ceux qui seront reconnus par Dieu comme ayant été fidèles. C'est ça qui est important. Dieu va appeler des gens puis il va leur dire que ce sont des fidèles. On voit ça dans Matthieu 25, mettons le verset 22 et 23. C'est la parabole que le maître avait donné des talents à ses serviteurs, 5 à un, 2 à l'autre, puis un au troisième. Mais celui qui n'avait eu 5 puis celui qui n'avait eu 2, il avait multiplié par leur engagement, par leur fidélité. Ils ont multiplié ce que Dieu leur avait donné. Puis Dieu, il était fier. Il dit, ceux qui avaient reçu 2 talents, il s'approcha aussi, puis il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la même réponse que celui qui était rendu à 10, la même réponse à celui qui était rendu à 4. C'est pas la quantité qu'on va se rendre qui compte, c'est ton cœur. Dans quoi que tu as appliqué ton cœur, ta vie, tes énergies dans ce monde? T'as-tu servi le Seigneur? Et t'as-tu trouvé fidèle? C'est important. Puis il est encore temps, là, si on réalise qu'on est en train de prendre une pente, là, puis on est en train de dégringoler, de se tremper dans les choses de Dieu, puis dire, moi, là, je prends des décisions, je veille sur mon cœur, je m'aperçois que là, je commence à laisser rentrer des affaires que Dieu veut pas. Je décide de tosser ça, je veux être appelé fidèle. Je veux qu'au jour où je vais me présenter devant Dieu, qu'il me dise, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça va-tu être spécial, cette journée-là? Amen. Contrairement à l'autre que lui, celui qui n'avait un, puis qui l'a enterré, ça dit, il s'est fait traiter de paresseux, puis on va le voir un peu plus tard. C'est une analyse des gens. Ça, s'ils ont mis ça dans la parole, c'est parce que Dieu voulait qu'on prenne conscience de cela, pour qu'on s'évalue avant d'arriver là. Parce que quand on va être rendu là, il va être rendu trop tard d'y penser. J'aurais dû écouter, il est trop tard. C'est là aujourd'hui qu'il faut écouter, puis de rajuster nos vies, puis demander au Seigneur de venir nous changer, puis il va le faire.
Amen.
Amen.